L'encyclopédie, article Histoire, rédigé par Voltaire. Histoire, substantif féminin, c'est le récit des faits donné pour vrai, au contraire de la fable qui est le récit des faits donné pour faux. Il y a l'histoire des opinions, qui n'est guère que le recueil des erreurs humaines. L'histoire des arts, peut-être la plus utile de toutes, quand elle joint à la connaissance de l'invention et du progrès des arts la description de leur mécanisme. L'histoire naturelle, improprement dite histoire, et qui est une partie essentielle de la physique. L'histoire des événements se divise en sacré et profane. L'histoire sacrée est une suite des opérations divines et miraculeuses par lesquels il a plu à Dieu de conduire autrefois la nation juive et d'exercer aujourd'hui notre foi. Je ne toucherai point à cette matière respectable. Les premiers fondements de toute histoire sont les récits des pères aux enfants, transmis ensuite d'une génération à une autre. Ils ne sont que probables dans leur origine et perdent un degré de probabilité à chaque génération. Avec le temps, la fable se grossit et la vérité se perd. De là vient que toutes les origines des peuples sont absurdes. Ainsi, les Égyptiens avaient été gouvernés par les dieux pendant beaucoup de siècles. Ils l'avaient été ensuite par des demi-dieux. Enfin, ils avaient eu des rois pendant 11 340 ans. Et le soleil, dans cet espace de temps, avait changé 4 fois d'Orient et de couchant. Les Phéniciens prétendent être établis dans leur pays depuis 30 000 ans, et ces 30 000 ans étaient remplis d'autant de prodiges que la chronologie égyptienne. On sait quel merveilleux ridicule règne dans l'ancienne histoire des Grecs. Les Romains, tout sérieux qu'ils étaient, n'ont pas moins enveloppé de fables l'histoire de leur premier siècle. Ce peuple si récent, en comparaison des nations asiatiques, a été 500 années sans historien. Ainsi, il n'est pas surprenant que Romulus ait été le fils de Mars, qu'une louve ait été sa nourrice, qu'il ait marché avec 20 000 hommes de son village de Rome contre 25 000 combattants du village des Samains, et qu'ensuite il soit devenu dieu, que Tarquin ancien ait coupé une pierre avec un rasoir et qu'une vestale et tirer à terre un vaisseau avec sa ceinture, etc. Les premières annales de toutes nos nations modernes ne sont pas moins fabuleuses. Les choses prodigieuses et improbables doivent être rapportées, mais comme des preuves de la crédulité humaine. Elles entrent dans l'histoire des opinions. Pour connaître qu'avec certitude quelque chose de l'histoire ancienne, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de voir s'il reste quelques monuments incontestables. Nous n'en avons que 3 par écrit. Le premier est le recueil des observations astronomiques faites pendant 1900 ans de suite à Babylone, envoyées par Alexandre en Grèce et employées dans l'Almageste de Ptolémée. Et cette suite d'observations, qui remonte à 2234 ans avant notre ère vulgaire, prouve invinciblement que les Babyloniens existaient encore de peuple plusieurs siècles auparavant. Car les arts ne sont que l'ouvrage du temps, et la paresse naturelle aux hommes les laisse des milliers d'années sans autre connaissance et sans autre talent que ceux de se nourrir, de se défendre des injures de l'air et de s'égorger. Qu'on en juge par les Germains et par les Anglais du temps de César, par les Tartares d'aujourd'hui, par la moitié de l'Afrique, et par tous les peuples que nous avons trouvés dans l'Amérique, en exceptant à quelques égards les royaumes du Pérou et du Mexique et la République de Tlaxcala. Le second monument est l'éclipse centrale du Soleil, calculée à la Chine 2155 ans avant notre ère vulgaire, et reconnue véritable par tous nos astronomes. Il faut dire la même chose des Chinois que des peuples de Babylone. Ils composaient déjà sans doute un vaste empire policé. Mais ce qui met les Chinois au-dessus de tous les peuples de la Terre, c'est que ni leurs lois, ni leurs mœurs, ni la langue que parlent chez eux les lettrés n'ont pas changé depuis environ 4000 ans. Cependant, cette nation, la plus ancienne de tous les peuples qui subsistent aujourd'hui, celle qui a possédé le plus vaste et le plus beau pays, celle qui a inventé presque tous les arts avant que nous eussions appris quelques-uns, a toujours été omise, jusqu'à nos jours, dans nos prétendues histoires universelles. Et quand un Espagnol et un Français faisaient le dénombrement des nations, ni l'un ni l'autre ne manquaient d'appeler son pays la première monarchie du monde. Le troisième monument, fort inférieur aux deux autres, subsiste dans les marbres d'Arondelle. La chronique d'Athènes y est gravée 263 ans avant notre ère, mais elle ne remonte que jusqu'à Cécrops, 1319 ans au-delà du temps où elle fut gravée. Voilà, dans l'histoire de l'Antiquité, les seules connaissances incontestables que nous ayons. Il n'est pas étonnant qu'on n'ait point d'histoire ancienne profane au-delà d'environ 3000 années. Les révolutions de ce globe, la longue et universelle ignorance de cet art qui transmet les faits par l'écriture en sont cause. Il y a encore plusieurs peuples qui n'en ont aucun usage. Cet art ne fut commun que chez un très petit nombre de nations policées et encore était-il en très peu de mains. Rien de plus rare chez les Français et chez les Germains que de savoir écrire jusqu'au XIIIe et XIVe siècle. Presque tous les actes n'étaient attestés que par témoins. Ce ne fut en France que sous Charles VII, en 1454, qu'on rédigea par écrit les coutumes de France. L'art d'écrire était encore plus rare chez les Espagnols. Et de là vient que leur histoire est si sèche et si incertaine jusqu'au temps de Ferdinand et d'Isabelle. On voit par là combien le très petit nombre d'hommes qui savaient écrire pouvaient en imposer. Il y a des nations qui ont subjugué une partie de la terre sans avoir l'usage des caractères. Nous savons que Gengis Khan conquit une partie de l'Asie au commencement du XIIIe siècle. Mais ce n'est ni par lui ni par les Tartares que nous le savons. Leur histoire, écrite par les Chinois et traduite par le père Gobil, dit que ces Tartares n'avaient point l'art d'écrire. Il ne dut pas être moins inconnu au site Oguzkan, nommé Madris, par les Persans et par les Grecs, qui conquit une partie de l'Europe et de l'Asie si longtemps avant le règne de Cyrus. Il est presque sûr qu'alors, sur 100 nations, il y en avait à peine 2 qui usassent de caractère. Il reste des monuments d'une autre espèce qui servent à constater seulement l'antiquité reculée de certains peuples qui précèdent toutes les époques connues et tous les livres. Ce sont les prodiges d'architecture, comme les pyramides et les palais d'Égypte, qui ont résisté au temps. Hérodote, qui vivait il y a 2200 ans et qui les avait vus, n'avait pu apprendre les prêtres égyptiens dans quel temps on les avait levés. Il est difficile de donner à la plus ancienne des pyramides moins de 4000 ans d'antiquité, mais il faut considérer que ces efforts de l'ostentation des rois n'ont pu être commencés que longtemps après l'établissement des villes. Mais pour bâtir des villes dans un pays inondé tous les ans, il avait fallu d'abord relever le terrain, fonder les villes sur des pilotis dans ce terrain de vase, et les rendre inaccessibles à l'inondation. Il avait fallu, avant de prendre ce parti nécessaire, et avant d'être en état de tenter ces grands travaux, que les peuples se fussent pratiquer des retraites pendant la crue du Nil, au milieu des rochers qui forment deux chaînes à droite et à gauche de ce fleuve. Il avait fallu que ces peuples rassemblés eussent les instruments du labourage, ceux de l'architecture, une grande connaissance de l'arpentage, avec des lois et une police. Tout cela demande nécessairement un espace de temps prodigieux. Nous voyons par les longs détails qui retardent tous les jours nos entreprises les plus nécessaires et les plus petites, combien il est difficile de faire de grandes choses, et qu'il faut non seulement une opiniâtreté infatigable, mais plusieurs générations animées de cette opiniâtreté. Cependant, que ce soit Ménès ou Thoth ou Khéops ou Ramsès, qui aient élevé un ou deux de ces prodigieuses masses, n'en seront pas instruits de l'histoire de l'ancienne Égypte. La langue de ce peuple est perdue. Nous ne savons donc autre chose, sinon qu'avant les plus anciens historiens, il y avait de quoi faire une histoire ancienne. Celle que nous nommons ancienne et qui est en effet récente ne remonte guère qu'à 3000 ans. Nous n'avons avant ce temps que quelques probabilités. Deux seuls livres profanes ont conservé ces probabilités, la chronique chinoise et l'histoire d'Hérodote. Les anciennes chroniques chinoises ne regardent que cet empire séparé du reste du monde. Hérodote, plus intéressant pour nous, parle de la terre alors connue. Il enchanta les Grecs en leur récitant les 9 livres de son histoire, par la nouveauté de cette entreprise et par le charme de sa diction, et surtout par les fables. Presque tout ce qu'il raconte sur la foi des étrangers est fabuleux, mais tout ce qu'il a vu est vrai. On apprend de lui, par exemple, quelle extrême opulence et quelle splendeur régnait dans l'Asie mineure, aujourd'hui pauvre et dépeuplée. Il a vu à Delphes les présents d'or prodigieux que les rois de Lydie avaient envoyés à Delphes, et il parle à des auditeurs qui connaissaient Delphes, comme lui. Or, quel espace de temps a dû s'écouler avant que les rois de Lydie eussent pu amasser assez de trésors superflus pour faire des présents si considérables à un temple étranger? Mais quand Hérodote rapporte les contes qu'il a entendus, son livre n'est plus qu'un roman qui ressemble aux fables milésiennes. C'est un candole qui montre sa femme toute nue à son ami Gigès. C'est cette femme qui, par modestie, ne laisse à Gigès que le choix de tuer son mari, d'épouser la veuve ou de périr. C'est un oracle de Delphes qui devine que, dans le même temps qu'il parle, Crésus, à 100 lieues de là, fait cuire une tortue dans un plat d'airain. Rollin, qui répète tous les contes de cette espèce, admire la science de l'oracle et la véracité d'Apollon, ainsi que la pudeur de la femme du roi Candole. Et à ce sujet, il propose à la police d'empêcher les jeunes gens de se baigner dans la rivière. Le temps est si cher et l'histoire si immense qu'il faut épargner au lecteur de telles fables et de telles moralités. L'histoire de Cyrus est toute défigurée par les traditions fabuleuses. Il y a grande apparence que ce Kiro, qu'on nomme Cyrus, à la tête des peuples guerriers des lames, conquit en effet Babylone, amollie par les délices. Mais on ne sait pas seulement quel roi régnait alors à Babylone. Les uns disent Balthazar, les autres Amaboth. Hérodote fait tuer Cyrus dans une expédition contre les Massagètes. Et Xénophon, dans son roman « Mort à les politiques », le fait mourir dans son lit. On ne sait autre chose dans ces ténèbres de l'histoire, sinon qu'il y avait depuis très longtemps de vastes empires et des tyrans dont la puissance était fondée sur la misère publique, que la tyrannie était parvenue jusqu'à dépouiller les hommes de leur virilité, pour s'en servir à d'infâmes plaisirs au sortir de l'enfance et pour les empouiller dans leur vieillesse à la garde des femmes, que la superstition gouvernait les hommes, qu'un songe était regardé comme un avis du ciel et qu'il décidait de la paix et de la guerre, etc. Et à mesure qu'Hérodote, dans son histoire, se rapproche de son temps, il est mieux instruit et plus vrai. Il faut avouer que l'histoire ne commence pour nous qu'aux entreprises des Perses contre les Grecs. On ne trouve avant ces grands événements que quelques récits vagues, enveloppés de contes puérils. Hérodote devient le modèle des historiens quand il décrit ses prodigieux préparatifs de Xerxès pour aller subjuguer la Grèce et ensuite l'Europe. Il le mène, suivi de près de 2 millions de soldats, depuis Sus jusqu'à Athènes. Il nous apprend comment étaient armés tant de peuples différents que ce monarque traînait après lui. Aucun n'est oublié, du fond de l'Arabie et de l'Égypte, jusqu'au-delà de la Bactriane et de l'extrémité septentrionale de la mer Caspienne, pays alors habité par des peuples puissants et aujourd'hui par des Tartares vagabonds. Toutes les nations, depuis le Bosphore de Thrace jusqu'à Gange, sont sous ses étendards. On voit avec étonnement que ce prince possédait autant de terrain qu'en eut l'Empire romain. Il avait tout ce qui appartient aujourd'hui au grand Mogol au-dessus du Gange, toute la Perse, tout le pays des Ouzbeks, tout l'empire des Turcs, si vous en acceptez la Roumanie. Mais en récompense, il possédait l'Arabie. On voit, par l'étendue de ses états, qu'il est le tort des déclamateurs en vers et en prose de traiter de fou Alexandre, vengeur de la Grèce, pour avoir subjugué l'empire de l'ennemi des Grecs. Il n'alla en Égypte, à Tyr et dans l'Inde que parce qu'il le devait, et que Tyr, l'Égypte et l'Inde appartenaient à la domination qui avait dévasté la Grèce. Hérodote eut le même mérite qu'Homère. Il fut le premier historien, comme Homère, le premier poète épique. Et tous deux saisirent les beautés propres d'un art inconnu avant eux. C'est un spectacle admirable dans Hérodote que cet empereur de l'Asie et de l'Afrique, qui fait passer son armée immense sur un pont de bateau d'Asie en Europe, qui prend la Thrace, la Macédoine, la Thessalie, l'Achaïe supérieure, et qui entre dans Athènes abandonnée et déserte. On ne s'attend point que les Athéniens, sans ville, sans territoire, réfugiés sur leur vaisseau avec quelques autres Grecs, mettront en fuite la nombreuse flotte du grand roi, qu'ils rentreront chez eux en vainqueurs, qu'ils forceront Xerxès à ramener ignominieusement les débris de son armée, et qu'ensuite ils lui défendront par un traité de naviguer sur leur mer. Cette supériorité d'un petit peuple généreux et libre sur toute l'Asie esclave est peut-être ce qu'il y a de plus glorieux chez les hommes. On apprend aussi par cet événement que les peuples de l'Occident ont toujours été meilleurs marins que les peuples asiatiques. Quand on lit l'histoire moderne, la victoire de Lépante fait souvenir celle de Salamine, et on compare Don Juan d'Autriche et Colonne à Thémistocle et à Eurybiades. Voilà peut-être le seul fruit qu'on peut tirer de la connaissance de ces temps reculés. Thucydide, successeur d'Hérodote, se borne à nous détailler l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Pays qui n'est pas plus grand qu'une province de France ou d'Allemagne, mais qui a produit des hommes en tout genre dignes d'une réputation immortelle. Et comme si la guerre civile, la plus horrible des fléaux, ajoutait un nouveau feu et de nouveaux ressorts à l'esprit humain, c'est dans ce temps que tous les arts fleurissaient en Grèce. C'est ainsi qu'il commence à se perfectionner ensuite à Rome, dans d'autres guerres civiles du temps de César, et qu'il reste encore dans notre XVe et XVIe siècle de l'ère vulgaire parmi les troupes de l'Italie. Après cette guerre du Péloponnèse décrite par Thucydide, vient le temps célèbre d'Alexandre, prince digne d'être élevé par Aristote, qui fonde beaucoup plus de villes que les autres, n'en ont détruit, et qui change le commerce de l'univers. De son temps et de celui de ses successeurs, florissait Carthage, et la République romaine commençait à fixer sur elle les regards des nations. Tout le reste est enseveli dans la barbarie, les Celtes, les Germains, tous les peuples du Nord sont inconnus. L'histoire de l'Empire romain est ce qui mérite le plus notre attention, parce que les Romains ont été nos maîtres et nos législateurs. Leurs lois sont encore en vigueur dans la plupart de nos provinces. Leur langue se parle encore, et longtemps après leur chute, elle a été la seule langue dans laquelle on négligea les actes publics en Italie, en Allemagne, en Espagne, en France, en Angleterre et en Pologne. Au démembrement de l'Empire romain en Occident, commence un nouvel ordre de choses. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire du Moyen Âge. Histoire barbare, de peuples barbares qui, devenus chrétiens, n'en deviennent pas meilleurs. Pendant que l'Europe est ainsi bouleversée, on voit apparaître au VIe siècle les Arabes, jusque-là renfermés dans leur désert. Ils étendent leur puissance et leur domination dans la Haute Asie, dans l'Afrique, et envahissent l'Espagne. Les Turcs leur succèdent et établissent le siège de leur empire à Constantinople, au milieu du XVe siècle. C'est sur la fin de ce siècle qu'un nouveau monde est découvert. Et bientôt, après la politique de l'Europe, et les arts prennent une forme nouvelle. L'art de l'imprimerie et la restauration des sciences font qu'enfin on a des histoires assez fidèles, au lieu de chroniques ridicules enfermées dans les cloîtres depuis Grégoire de Tours. Chaque nation dans l'Europe a bientôt ses historiens. L'ancienne indigence se tourne en superflu. Il n'est point de ville qui ne veuille avoir son histoire particulière. On est accablé sous le poids des minuties. Un homme qui veut s'instruire est obligé de s'en tenir au fil des grands événements et d'écarter tous les petits faits particuliers qui viennent à la traverse. Il saisit, dans la multitude des révolutions, l'esprit des temps et les mœurs des peuples. Il faut surtout s'attacher à l'histoire de sa patrie, l'étudier, la posséder, réserver pour elle les détails et jeter une vue plus générale sur les autres nations. Leur histoire n'est intéressante que par les rapports qu'elles ont avec nous ou par les grandes choses qu'elles ont faites. Les premiers âges depuis la chute de l'Empire romain ne sont, comme on l'a remarqué ailleurs, que des aventures barbares sous des noms barbares, excepté le temps de Charlemagne. L'Angleterre reste presque isolée jusqu'au règne d'Édouard III. Le Nord est sauvage jusqu'au XVIe siècle. L'Allemagne est longtemps une anarchie. Les querelles des empereurs et des papes désolent 600 ans l'Italie, et il est difficile d'apercevoir la vérité à travers les passions des écrivains peu instruits qui ont donné les chroniques informes de ces temps malheureux. La monarchie d'Espagne n'a qu'un événement sous les rois wisigoths, et cet événement est celui de sa destruction. Tout est confusion jusqu'au règne d'Isabelle et de Ferdinand. La France, jusqu'à Louis XI, est en proie à des malheurs obscurs sous un gouvernement sans règles. Daniel a beau prétendre que les premiers temps de la France sont plus intéressants que ceux de Rome, il ne s'aperçoit pas que les commencements d'un si vaste empire sont d'autant plus intéressants qu'ils sont plus faibles et qu'on aime avoir la petite source d'un torrent qui a inondé la moitié de la terre. Pour pénétrer dans le labyrinthe ténébreux du Moyen Âge, il faut le secours des archives, et on n'en a presque point. Quelques anciens couvents ont conservé des chartres, des diplômes qui contiennent des donations, dont l'autorité est quelquefois contestée. Ce n'est pas là un recueil où l'on puisse s'éclairer sur l'histoire politique et sur le droit public de l'Europe. L'Angleterre est de tous les pays celui qui a sans contredit les archives les plus anciennes et les plus suivies. Ces actes, recueillis par Rimmer sous les auspices de la reine Anne, commencent avec le XIIe siècle et sont continués sans interruption jusqu'à nos jours. Ils répandent une grande lumière sur l'histoire de France. Ils font voir, par exemple, que la Guyenne appartenait aux Anglais en souveraineté absolue quand le roi de France Charles V la confisqua par un arrêt et s'en empara par les armes. On y apprend quelle somme considérable et quelle espèce de tribut paya Louis XI au roi Édouard IV qu'il pouvait combattre. Et combien d'argent la reine Élisabeth prête à Henri le Grand pour l'aider à monter sur son trône, etc. De l'utilité de l'histoire. Cet avantage consiste dans la comparaison qu'un homme d'État, un citoyen, peut faire des lois et des mœurs étrangères avec celles de son pays. C'est ce qui excite les nations modernes à enchérir les unes sur les autres dans les arts, dans le commerce et dans l'agriculture. Les grandes fautes passées servent beaucoup en tout genre. On ne saurait trop remettre devant les yeux les crimes et les malheurs causés par les querelles absurdes. Il est certain qu'à force de renouveler la mémoire de ces querelles, on les empêche de renaître. C'est pour avoir lu les détails des batailles de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt, de Saint-Quentin, de Gravelines, etc., que le célèbre maréchal de Saxe se déterminait à chercher autant qu'il pouvait ce qu'il appelait des affaires de poste. Les exemples font un grand effet sur l'esprit d'un prince qui lit avec attention. Il verra qu'Henri IV n'entreprenait sa grande guerre qui devait changer le système de l'Europe qu'après s'être assez assuré d'une ère de la guerre pour la pouvoir soutenir plusieurs années sans aucun espoir de finances. Il verra que la reine Élisabeth, par les seules ressources du commerce et d'une sage économie, résista au puissant Philippe II, et que de 100 vaisseaux qu'elle mit en mer contre la flotte invincible, les trois quarts étaient fournis par les villes commerçantes d'Angleterre. La France, non entamée sous Louis XIV, après 9 ans de la guerre la plus malheureuse, montrera évidemment l'utilité des places frontières qu'il construisit. En vain, l'auteur des causes de la chute de l'Empire romain blâme-t-il Justinien d'avoir eu la même politique que Louis XIV ? Il ne devait blâmer que les empereurs qui négligèrent ces places frontières et qui ouvrirent les portes de l'Empire aux barbares. Enfin, la grande utilité de l'histoire moderne et l'avantage qu'elle a sur l'ancienne est d'apprendre à tous les potentats que depuis le XVe siècle, on s'est toujours réuni contre une puissance trop prépondérante. Ce système d'équilibre a toujours été inconnu des anciens, et c'est la raison des succès du peuple romain, qui, ayant formé une milice supérieure à celle des autres peuples, les subjugua l'un après l'autre, du Tibre jusqu'à l'Euphrate, de la certitude de l'histoire. Toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique. Quand Marc Paul parle le premier, mais le seul, de la grandeur et de la population de la Chine, il ne fut pas cru, et il ne put exiger de croyance. Les Portugais, qui entrèrent dans ce vaste empire plusieurs siècles après, commencèrent à rendre la chose probable. Elle est aujourd'hui certaine de cette certitude qui naît de la disposition unanime de 1000 témoins oculaires de différentes nations, sans que personne ait réclamé contre leur témoignage. Si 2 ou 3 historiens seulement avaient écrit l'aventure de roi Charles XII, qui s'obstinait à rester dans les états du sultan, son bienfaiteur, malgré lui, se battit avec ses domestiques contre une armée de janissaires et de tartares, bien j'aurais suspendu mon jugement. Mais, ayant parlé à plusieurs témoins oculaires, et n'ayant jamais entendu révoquer cette action en doute, il a bien fallu la croire, parce qu'après tout, si elle n'est ni sage ni ordinaire, elle n'est contraire ni aux lois de la nature, ni au caractère du héros. L'histoire de l'homme au masque de fer aurait passé dans mon esprit pour un roman, si je ne la tenais que du gendre ou du chirurgien qui eut soin de cet homme dans sa dernière maladie. Mais l'officier qui le gardait alors, m'ayant aussi attesté le fait, et tous ceux qui devaient en être instruits me l'ayant confirmé, et les enfants des ministres d'État dépositaires de ce secret qui vivent encore en étant instruits comme moi, j'ai donné à cette histoire un grand degré de probabilité, degré pourtant au-dessous de celui qui fait croire l'affaire de Bander, parce que l'aventure de Bander a eu plus de témoins que celle de l'homme au masque de fer. Ce qui répugne au cours ordinaire de la nature ne doit pas être cru, à moins qu'il ne soit attesté par des hommes animés de l'esprit divin. Voilà pourquoi l'article « certitude » de ce dictionnaire, c'est un grand paradoxe de dire qu'on devait croire aussi bien tout Paris qui affirmèrent avoir vu ressusciter un mort, qu'on croit à tout Paris quand il dit qu'on a gagné la bataille de Fontenoy. Il paraît évident que le témoignage de tout Paris sur une chose improbable ne saurait être égal au témoignage de tout Paris sur une chose probable. Ce sont là les premières notions de la scène métaphysique. Ce dictionnaire est consacré à la vérité. Un article doit corriger l'autre. Et s'il se trouve ici quelque erreur, elle doit être relevée par un homme plus éclairé. Incertitude de l'histoire. On a distingué les temps fabuleux et historiques. Mais les temps historiques auraient dû être distingués eux-mêmes en vérité et en fable. Je ne parle pas ici des fables reconnues aujourd'hui pour telles. Il n'est plus question, par exemple, des prodiges dont Titli va embellir ou gâter son histoire. Mais dans les faits les plus reçus, que de raisons de douter. Qu'on fasse attention que la République romaine a été 500 ans sans historien, et que Titli lui-même déplore la perte des annales des pontifes et des autres monuments qui périrent presque tous dans l'incendie de Rome. Pleraque interierunt. Qu'on songe que dans les 300 premières années, l'art d'écrire était très rare. Rarae periadem tempora literae. Il sera permis alors de douter de tous les événements qui ne sont pas dans l'ordre ordinaire des choses humaines. Sera-t-il bien probable que Romulus, le petit-fils du roi des Sabins, aura été forcé d'enlever les Sabines pour avoir des femmes? L'histoire de Lucrèce sera-t-elle bien vraisemblable? Croira-t-on aisément, sur la foi de Tite-Live, que le roi Porsenna s'enfuit plein d'admiration pour les Romains parce qu'un fanatique avait voulu l'assassiner? Ne sera-t-on pas porté au contraire à croire Polybe, antérieur à Tite-Live de 200 années, qui dit que Porsenna subjuga les Romains? L'aventure de Régulus enfermé par les Carthaginois dans un tonneau garni de pointes de fer mérite-t-elle qu'on la croie? Polybe contemporain n'en aurait-il pas parlé s'il avait été vrai? Il n'en dit pas un mot. N'est-ce pas une grande présomption que ce conte ne fut inventé que longtemps après pour rendre les Carthaginois odieux? Ouvrez le dictionnaire de Moreri à l'article Régulus. Il vous assure que le supplice de ce Romain est rapporté dans Tite-Live. Cependant, la décade où Tite-Live aurait pu en parler est perdue. On n'a que le supplément de Freycendinus, et il se trouve que ce dictionnaire n'a cité qu'un Allemand du XVIe siècle, croyant citer un Romain du temps d'Auguste. On fait des volumes immenses de tous les faits célèbres et reçus dont il faut douter, mais les bornes de cet article ne permettent pas de s'étendre. Les monuments, les cérémonies annuelles, les médailles même, sont-elles des preuves historiques? On est naturellement porté à croire qu'un monument érigé par une nation pour célébrer un événement en atteste la certitude. Cependant, si ces monuments n'ont pas été élevés par des contemporains, s'ils ne célèbrent quelques faits peu vraisemblables, prouvent-ils autre chose sinon qu'on a voulu consacrer une opinion populaire? La colonne rostrale érigée dans Rome par les contemporains de Duilius est sans doute une preuve de la victoire navale de Duilius. Mais la statue de l'augure Navius, qui coupait un caillou avec un rasoir, prouvait-elle que Navius avait opéré ce prodige? Les statues de Cérès et de Triptolème dans Athènes étaient-elles des témoignages incontestables que Cérès eût enseigné l'agriculture aux Athéniens? Le fameux Laocoon qui subsiste aujourd'hui en entier atteste-t-il bien la vérité de l'histoire du cheval de Troie? Les cérémonies, les fêtes annuelles établies par toute une nation ne constatent pas mieux l'origine à laquelle on les attribue? La fête d'Arion, portée sur un dauphin, se célébrait chez les Romains comme chez les Grecs. Celle de Faune rappelait son aventure avec Hercule et Omphale, quand ce dieu amoureux d'Omphale prit le lit d'Hercule pour celui de sa maîtresse. La fameuse fête des Lupercales était établie en l'honneur de la louve, qui alléta Romulus et Rémus. Mais sur quoi était fondée la tête faite d'Orion, célébrée le 5 des Ides de mai? La voici. Irée reçut chez lui Jupiter, Neptune et Mercure. Et quand ses hôtes prirent congé, ce bonhomme qui n'avait point de femme et qui voulait avoir un enfant, témoigna sa douleur aux trois dieux. On ose exprimer ce qu'ils firent sur la peau du bœuf qu'Irée leur avait servi à manger. Ils couvrirent ensuite cette peau d'un peu de terre, et de là naquit Orion au bout de 9 mois. Presque toutes les fêtes romaines, syriennes, grecques, égyptiennes étaient fondées sur de pareils contes, ainsi que les temples et les statues des anciens héros. C'étaient des monuments que la crédulité consacrait à l'erreur. Une médaille, même contemporaine, n'est pas quelquefois une preuve. Combien la flatterie n'a-t-elle pas frappé de médailles sur des batailles très indécises, qualifiées de victoires et sur des entreprises manquées qui n'ont été achevées que dans la légende? N'a-t-on pas, en dernier lieu, pendant la guerre de 1740, des Anglais contre le roi d'Espagne, frappé une médaille qui attestait la prise de Carthagène par l'amiral Vernon, tandis que cet amiral levait le siège? Les médailles sont des témoignages irréprochables que lorsque l'événement est attesté par des auteurs contemporains, alors ces preuves, se soutenant l'une par l'autre, constatent la vérité. Doit-on, dans l'histoire, insérer des harangues et faire des portraits? Si dans une occasion importante, un général d'armée, un homme d'État, a parlé d'une manière singulière et forte qui caractérise son génie et celui de son siècle, il faut sans doute rapporter son discours mot pour mot. De telles harangues sont peut-être la partie de l'histoire la plus utile. Mais pourquoi faire dire à un homme ce qu'il n'a pas dit? Il vaudrait presque autant lui attribuer ce qu'il n'a pas fait. C'est une fiction imitée d'Homère. Mais ce qui est fiction dans un poème devient à la rigueur mensonge dans un historien. Plusieurs anciens ont eu cette méthode. Cela ne prouve autre chose, sinon que plusieurs anciens ont voulu faire parade de leur éloquence aux dépens de la vérité. Les portraits montrent encore bien souvent plus d'envie de briller que d'instruire. Des contemporains sont en droit de faire le portrait des hommes d'État avec lesquels ils ont négocié, des généraux sous qui ils ont fait la guerre. Mais qu'il est à craindre que le pinceau ne soit guidé par la passion. Il paraît que les portraits qu'on trouve dans Clarendon sont faits avec plus d'impartialité, de gravité et de sagesse que ce qu'on lit avec plaisir dans le cardinal de Retz. Mais vouloir peindre les anciens, s'efforcer de développer leurs armes, regarder les événements comme des caractères avec lesquels on peut lire sûrement dans le fond des cœurs, c'est une entreprise bien délicate. Et c'est dans plusieurs une puérilité. De la maxime de Cicéron concernant l'histoire, que l'historien n'ose dire une fausseté ni cacher une vérité. La première partie de ce précepte est incontestable. Il faut examiner l'autre. Si une vérité peut être de quelque utilité à l'État, votre silence est condamnable. Mais je suppose que vous écriviez l'histoire d'un prince qui vous aura confié un secret. Devez-vous le révéler? Devez-vous dire à la postérité ce que vous seriez coupable de dire en secret à un seul homme? Le devoir d'un historien l'emportera-t-il sur un devoir plus grand? Je suppose encore que vous ayez été témoin d'une faiblesse qui n'a point influé sur les affaires publiques. Devez-vous révéler cette faiblesse? En ce cas, l'histoire serait une satire. Il faut avouer que la plupart des écrivains d'anecdotes sont plus indiscrets qu'utiles. Mais que dire de ces compilateurs insolents qui, se faisant un mérite de médire, impriment et vendent des scandales comme Lecoste vendait des poisons? De l'histoire satirique. Si plus tard qu'a repris Hérodote de n'avoir pas assez relevé la gloire de quelques villes grecques, et d'avoir omis plusieurs faits connus dignes de mémoire, combien sont plus répréhensibles aujourd'hui ce qui, sans avoir aucun des mérites d'Hérodote, impute aux princes, aux nations, des actions odieuses, sans la plus légère apparence de preuve. La guerre de 1741 a été écrite en Angleterre. On trouve dans cette histoire qu'à la bataille de Fontenoy, les Français tirèrent sur les Anglais avec des balles empoisonnées et des morceaux de verre venimeux, et que le duc de Cumberland envoya au roi de France une botte pleine de ces prétendus poisons trouvés dans les corps des Anglais blessés. Le même auteur ajoute que les Français ayant perdu 40 000 hommes à cette bataille, le Parlement de Paris rendit un arrêt par lequel il était défendu d'en parler sous des peines corporelles. Des mémoires frauduleux, imprimés depuis peu, sont remplis de pareilles absurdités insolentes. On y trouve qu'au siège de Lille, les alliés jetaient des billets dans la ville conçue en ces termes. « Français, consolez-vous, la maintenant ne sera pas votre reine. » Presque chaque page est remplie d'impostures et de termes offensants contre la famille royale et contre les familles principales du royaume, sans alléguer la plus légère vraisemblance qui puisse donner la moindre couleur à ces mensonges. Mais ce n'est point écrire l'histoire, c'est écrire au hasard des calomnies. On a imprimé en Hollande, sous le nom d'histoire, une foule de libelles dont le style est aussi grossier que les injures et les faits aussi faux qu'ils sont mal écrits. C'est, dit-on, un mauvais fruit de l'excellent arbre de la liberté. Mais si les malheureux auteurs de ces inepties ont eu la liberté de tromper les lecteurs, il faut user ici de la liberté de les détromper. De la méthode, de la manière d'écrire l'histoire et du style. On en a tant dit sur cette matière qu'il faut ici en dire très peu. On sait assez que la méthode et le style de Tite-Live, sa gravité et son éloquence sage, conviennent à la majesté de la République romaine. Que Tacite est plus fait pour peindre des tyrans, Polybe pour donner des leçons de la guerre, Denis d'Halicarnasse pour développer les antiquités. Mais en se modérant en général sur ces grands maîtres, on a aujourd'hui un fardeau plus pesant que le leur à soutenir. On exige des historiens modernes plus de détails, des faits plus constatés, des dates précises, des autorités, plus d'attention aux usages, aux lois, aux mœurs, au commerce, à la finance, à l'agriculture, à la population. Il en est de l'histoire comme des mathématiques et de la physique. La carrière s'est prodigieusement accrue. Autant il était aisé de faire un recueil de gazettes, autant il est difficile aujourd'hui d'écrire l'histoire. On exige que l'histoire d'un pays étranger ne soit point jetée dans le même moule que celle de votre patrie. Si vous faites l'histoire de France, vous n'êtes pas obligé de décrire le cours de la Seine et de la Loire. Mais si vous donnez au public les conquêtes des Portugais en Asie, on exige une topographie des pays découverts. On veut que vous meniez votre lecteur par la main le long de l'Afrique et des côtes de la Perse et de l'Inde. On attend de vous des instructions sur les mœurs, les lois, les usages de ces nations nouvelles pour l'Europe. Nous avons 20 histoires de l'établissement des Portugais dans les Indes, mais aucune ne nous a fait connaître les 10 gouvernements de ce pays, ses religions, ses antiquités, les Brahmes, les disciples de Jean, les Guèbres, les Bagnans. Cette réflexion peut s'appliquer à presque toutes les histoires des pays étrangers. Si vous n'avez autre chose à nous dire, sinon qu'un barbare a succédé à un autre barbare sur les bords de l'Oxus et de l'Iaxarte, en quoi êtes-vous utile au public? La méthode convenable à l'histoire de votre pays n'est pas propre à écrire les découvertes du Nouveau Monde. Vous n'écrirez point sur une ville comme sur un grand empire. Vous ne ferez point la ville en particulier comme vous écrirez l'histoire d'Espagne ou d'Angleterre. Ces règles sont assez connues, mais l'art de bien écrire l'histoire, toujours très rare. On sait assez qu'il faut un style grave, pur, varié, agréable. Il en est des lois pour écrire l'histoire comme de celle de tous les arts de l'esprit. Beaucoup de préceptes, et peu de grands artistes.